1982-2022, Radio Alpa, 40 ans de radio libre.
Didier au micro, et c'est sur cette musique extraite de la bande originale du film Les Chariots de Feu, écrite par Vangelis Papathanassiou, que nous allons nous retrouver tous les soirs pendant environ 12 jours pour Cannes 82. Samedi qui a été donné le coup d'envoi du 35e festival de Cannes, qui est le plus grand festival mondial de cinéma. Radio Alpa n'a pas pu ignorer cette manifestation et l'équipe d'animation a décidé de vous présenter chaque soir à 20h30 un agenda Cannes 82. Nous vous parlerons donc quotidiennement des films présentés, des expositions, des discussions, etc., de tout ce qui se passe à Cannes, et ceci le plus souvent possible par l'intermédiaire de trois manceaux, Pierre, Jean et Philippe, animateurs du Cinépoche, qui sont partis pour Cannes hier. Nous espérons recevoir d'eux le plus souvent possible une sorte de carnet de voyage sous forme de cassette où ils nous parleront de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, bref, de la vie de ce festival Cannes 82. De notre côté, nous, ici, au Mans, nous essaierons de nous tenir au courant par la presse, par la radio, par la télévision de ce qui se passe au bord de la Méditerranée et tout ça pour vous en faire un bref compte-rendu quotidien. Pour l'occasion, nous avons fouillé nos discothèques et recherché des musiques de films qui émailleront ces rendez-vous quotidiens sur le cinéma. Aujourd'hui, nous avons tenté de faire un petit historique de ce festival cannois. Et pour cela, il nous faut remonter au début des années 30, en 1932 plus exactement, où l'on inaugure le premier festival international du film à Venise. Un festival créé comme département supplémentaire de la Biennale, mais qui deviendra annuel dès 1934. C'est en 1938 que René Jeanne, délégué officiel du gouvernement français à ce festival de Venise, rédige un rapport au ministre de l'Éducation nationale, à l'époque Jean Zay. Ce rapport s'élève contre le caractère de plus en plus politique du festival vénitien, dominé à l'époque par les forces de l'Axe. René Jeanne, dans son rapport, proposait la création d'un festival placé exclusivement sous le signe de la qualité artistique. Une proposition qui était d'ailleurs appuyée par Harold Smith, représentant l'industrie cinématographique américaine, et aussi par son homologue britannique Neville Kearney. Ayant reçu l'approbation du Conseil des ministres, le premier festival français était donc organisé à Cannes en septembre 1939. Ce n'était encore qu'une ébauche de ce que l'on connaît aujourd'hui, une ébauche malheureusement interrompue par la Deuxième Guerre mondiale. Il fallut attendre 1946 pour que se déroule le véritable premier festival sur la croisette où 11 nations déjà étaient présentes. Le prix du jury international devait être décerné cette même année à René Clément pour son film La bataille du rail, qui relatait une tranche de cette guerre qui venait de secouer le monde. Le festival de Cannes était donc lancé et démarrait la légende, le mythe, qui allait grandir tout au long des années pour devenir ce plus grand festival mondial de cinéma que l'on connaît. En 1981, par exemple, 35 000 festivaliers, dont plus de 2500 professionnels, ont envahi la croisette, lieu de légende, où l'on peut rencontrer à tout instant Robert De Niro, Beau Derek ou Catherine Deneuve. L'histoire de Cannes est évidemment, comme tous les mythes, semée d'anecdotes. Rappelez-vous Notorious de Alfred Hitchcock, où Cary Grant et Ingrid Bergman échangent le plus long baiser de l'histoire du cinéma. Rappelez-vous aussi les années 1946-1950, l'âge d'or du cinéma français avec des réalisateurs comme Delannoy, Becker, Clément, Duvivier qui mettent en scène des stars comme Martine Carole, Michel Morgan, Viviane Romance. Et puis en 1949, l'inauguration du festival est faite par le sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, un homme qui commence alors une carrière politique et cette carrière vient aujourd'hui d'atteindre son apogée. Ce sous-secrétaire d'État qui coupe le ruban s'appelle François Mitterrand.
« sur les vapeurs d'un tilleul monde. J'ai des visions ectoplasmiques, c'est Diana Beuse, sa bicyclette, 5e avenue New York peut-être. Jimi Hendrix joue du clavecin dans un break Dodge 1920. Et Dieu, cette mort ne sait plus bien si Kidori est musicien. Humphrey Bogart fait du patin dans San Francisco, tout éteint. Et Marilyn dit des histoires. J'ai des visions ectoplasmiques, c'est Diana Beuse, sa bicyclette, 5e avenue New York peut-être. À Washington, Janis Joplin joue au ping-pong, mais c'est James Dean qui vend des fleurs, veuillez jasmin. Otis Redding voit Gina Lowe dans une Inde ouverte au couteau, où des enfants de velours brun chantent fa fa fa, c'est très bien. Sur les vapeurs d'un tilleul monde, j'ai des visions ectoplasmiques. Diana Beuse, sa bicyclette, 5e avenue New York peut-être. Thomas Ingo sur son radeau passe le Capone, mais bientôt Stan Laurel a tout perdu. Le retrouva renouvelé et dans son nom Buster Keaton éclate de rire et ça résonne dans les couloirs de métro bleu. On fait un œuf merveilleux. Sur les vapeurs d'un tilleul monde, j'ai des visions ectoplasmiques. C'est Diana Beuse, sa bicyclette, 5e avenue New York peut-être. Sur les vapeurs d'un tilleul monde, j'ai des visions ectoplasmiques. C'est Diana Beuse, sa bicyclette, 5e avenue New York.
Impression. Nous sommes arrivés à Cannes depuis environ une heure et après avoir fait différentes queues dans différents endroits pour avoir d'abord le laissez-passer, ensuite un certain nombre de tickets, plus le mode d'emploi pour arriver à s'y retrouver là-dedans, on se retrouve directement dans une salle de cinéma avant d'avoir pu comprendre ce qui nous arrivait. On a bien entreaperçu fugitivement la croisette et l'hôtel Carlton et un certain nombre de choses. Mais pour en savoir plus, je vous en reparlerai tout à l'heure.
Le cinéma, ça ne se passe pas que dans les salles, c'est également sur la plage, à l'extérieur, où par exemple la starlette qui tient le troisième ou quatrième rôle d'un film et qui est en mal de publicité se fait largement photographier par un tas de gens qui font cercle autour d'elle. Et il y a un deuxième cercle qui est les gens qui regardent ceux qui regardent la starlette, c'est-à-dire qui regardent les photographes, le tout donnant un ensemble assez pittoresque.
Prenez vos places, s'il vous plaît. La séance commence. Ladies and gentlemen, do you please take your seats. The showing is starting.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des pierres à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Guillaume Tell ou grand air du Trouvère. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 il coupait, s'approche du ravin d'enfer. Fais attention pauvre pétain, car l'Anlad n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un courant de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, j'apprends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté 1 an et on a eu beaucoup d'enfants.
La nuit de San Lorenzo de Paolo et Vittorio Taviani.
Thank you.
dernier film des frères Taviani dans la grande salle. C'est les applaudissements qui étaient sur la banque juste avant. Et maintenant, nous refaisons la queue pour essayer d'avoir des billets pour les séances suivantes.
Alors, en deux mots, il s'agit d'une histoire qui se passe en Italie, dans l'Italie rurale du sud de l'Italie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit de l'exode d'une petite ville, de Toscane très précisément, face à l'arrivée imminente des troupes libératrices, c'est-à-dire des troupes américaines. Et en fait, c'est un peu, en partie du moins, un document qui vise à montrer les réactions de la population de cette petite ville face à l'occupant, face aux fascistes et face à l'arrivée des Américains qui sont espérés mais qui n'arrivent jamais, hein, sauf à la fin. Et puis aussi, c'est l'occasion pour les réalisateurs de dépeindre le portrait psychologique et les relations entre différents membres d'une famille et entre les différentes familles entre elles. Un portrait de père, enfin de patriarche, le portrait de la mama, et puis des filles qui essaient, enfin des filles d'un âge adolescente et jeune adulte et de toutes jeunes filles et leurs différentes réactions face à tous ces événements. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Par qui je commence? Par Pierre?
D'abord, le film est très beau. On a un grand plaisir à le voir et je crois que les frères Taviani ont un grand plaisir à le tourner. Et ça, c'est quand même très important. C'est vrai que c'est le premier film depuis hier. Enfin, on démarre juste le festival. Quand même, on a un si grand plaisir. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Philippe a très bien résumé le scénario. Le film se situe à plusieurs niveaux. Et en plus, il y a beaucoup d'humour dans ce film. On s'amuse, même si le ton du film est très grave.
C'est vrai, Pierre fait allusion à certaines séquences auxquelles les frères Taviani ne nous avaient pas habitués dans Padre Padrone. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont franchement burlesques, mais qui colle très bien avec... je vous raconte pas en détail pour que vous ayez du plaisir quand vous verrez le film, mais qui colle très bien et qui sert un petit peu de détente. C'est un peu le bouchon de champagne qui saute au milieu d'une tension continue dans le film. Et je crois que c'est très très bien vu, ça donne un ton assez nouveau à ce genre de film. Jean, qu'est-ce que tu penses de ce film?
Oh ben, je crois que c'est sûr que c'était un grand moment de plaisir. Que les images sont très belles, que ce qu'il a su aussi décrire, enfin ils ont su, puisque ce sont toujours les frères Taviani, ils ont su décrire les liens affectifs qui passaient, enfin des moments d'émotion assez forts qui se passaient entre des personnages qu'on découvre comme ça au fur et à mesure de l'histoire. Ça c'est très fort et ça vient en contrepoint de la description dramatique du sujet. Donc un film certainement à voir absolument. Ce que je regrette un peu, c'est le sujet, quoi, parce que est-ce qu'il faut encore en 1982 parler de la libération de l'Italie, parler de la libération de la France, l'avènement ou la fin du fascisme à cette époque-là? Peut-être qu'il y a peut-être d'autres sujets maintenant à traiter, hein, c'est ça que je me dis.
Pour l'Italie, oui, peut-être. Pour la France, la situation est un peu différente. Il y a quand même eu assez peu de films vraiment incisifs sur ce qui s'est passé en France, pas seulement les événements, mais également les dessous de l'histoire, dans la mesure où ça gêne un certain nombre de gens. Peut-être qu'en Italie, le cinéma italien était un peu plus politisé là-dessus. Et...
L'Italie et l'Allemagne.
Oui, l'Italie et l'Allemagne ont peut-être un peu plus la mémoire de ce genre de choses que les Français. Mais je pense effectivement que c'est un aspect qu'on peut mentionner. Donc c'est vraiment un des événements de ce festival. Je vous redis le titre pour que vous vous en souveniez bien quand vous le verrez sur les affiches des cinémas du Mans. Il s'agit donc de La Nuit de San Lorenzo, des frères Taviani, qui sont les réalisateurs de Padre Padrone, et c'est vraiment un très très grand film à voir absolument. parler d'un film tout à fait important, qui est le deuxième qu'on ait vu ce matin. Il s'agit d'un film français de Romain Goupy qui s'appelle « Mourir à 30 ans ». Alors, en quelques mots, il s'agit de l'histoire d'un militant, d'un ancien militant politique d'extrême gauche qui a commencé à militer dans les milieux lycéens avant 1968 et qui essaie de nous raconter à la fois son histoire et surtout l'histoire de son meilleur copain qui était également militant dans cette même organisation politique, on peut la nommer, il s'agissait de la JCR avant 68 et de la Ligue communiste après 68. Et il nous raconte son histoire à lui et l'histoire de son copain qui s'appelait Michel Recanati. Et son histoire jusqu'à une fin tragique puisque Michel Recanati s'est suicidé en 1978 et il essaie, Romain Goupy, essaie à travers ces quelques années d'histoire, essaie de retracer les raisons et la personnalité de son copain et la sienne par la même occasion et de retrouver les raisons qui ont conduit Michel Recanati à cet acte définitif. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est-à-dire que vu d'un point de vue de gens qui ont connu cette époque-là, qui sont issus de la même génération, ça fait quand même un drôle d'effet. Je crois qu'on a retrouvé un certain nombre de choses que l'on a vécues il y a quelques années. Et peut-être qu'on n'a pas un point de vue très objectif sur la chose, mais ça fait un certain effet. Qu'est-ce que tu en penses, Jean?
Ah oui, ça a fait beaucoup d'effet, faut pas le cacher. Moi j'étais très, très ému par le film et je retournerai certainement le voir. C'est sûr, revoir le centenaire de la commune, ça c'est un grand moment. Autre chose que de la nostalgie d'ailleurs, parce qu'on se disait à l'issue de la projection que c'était la première fois peut-être qu'on voyait ce sujet-là traité de cette manière, c'est-à-dire un regard à la fois sans complaisance, mais quand même avec un minimum de rigueur. Qu'est-ce qu'a été tout le gauchisme depuis 1967 à, je dirais, sa décadence dans les années 74-75, quoi. Hein. Alors en contrepoint, on a tout au long du film, il y a l'histoire personnelle d'un des dirigeants de la Ligue. Bon, ça renforce, si vous voulez, tout le propos plus politique. Donc c'est un film à la fois très sobre, très pudique aussi, et moi j'insiste là-dessus, techniquement il est très bien fait. Hein. D'accord, il y a beaucoup de documents d'archives, tant photographiques que cinématographiques, mais c'est très très bien monté, avec, moi j'ai trouvé une grande rigueur dans le montage, et les séquences filmées, on oublie assez facilement que c'est du 16 mm, ou alors le 16 mm s'adapte très très bien au sujet. On est vraiment loin des films militants qu'on a vus à une époque, quoi.
Pierre, ton avis ?
Oui, pour moi c'était un très grand film, un très grand moment ce matin. D'abord parce que c'est une fantastique histoire entre Romain Goupy, le réalisateur, et Michel. Et ça, c'est assez rare dans le cinéma. C'est pas une histoire d'homme, c'est pas une histoire de virilité. C'est vraiment une histoire entre deux copains qui sont sortis de l'adolescence en même temps, qui sont passés par un chemin militant, mais qui aussi ont eu vraiment une relation très forte entre eux. Et ça, c'est très touchant. Et en plus, c'est vraiment... je sais pas comment dire, c'est vraiment très très profond sur ce qu'a été cette période, mais sur ce qu'a été cet homme. Et je crois que c'est vraiment un très grand moment.
Je crois que oui, effectivement, on peut insister. Jean l'a dit tout à l'heure, insister sur le fait qu'il s'agit pas, même si nous on l'a peut-être vu un peu comme ça, un peu comme des anciens combattants. Il s'agit pas d'un film d'anciens combattants, du moins en ce sens que c'est pas un film complaisant. C'est-à-dire que c'est un film qui montre vraiment les choses avec toutes leurs nuances. C'est-à-dire qu'il y avait le côté l'enthousiasme de l'époque, puis il y avait aussi toutes les limites, toutes les erreurs qui ont pu se passer, y compris dans la vie quotidienne et personnelle des différents militants, leurs relations avec leurs camarades et copains, leurs relations avec les filles, et le fait que très souvent les actes et leur façon de vivre n'étaient pas du tout à la hauteur des principes et des paroles. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu un problème. Il y a également l'aspect un peu organisation pour l'organisation, l'aspect presque paramilitaire des organisations des services d'ordre, des meetings ou des manifs, et qui est assez bien mis en lumière. C'est-à-dire que à certains moments, on a l'impression, et je crois que c'était pas qu'une impression à l'époque, que c'était un peu une fin en soi. À certains points de vue, il y avait un peu le goût de l'organisation pour l'organisation, du beau meeting, etc. Et finalement, on s'aperçoit avec le recul que c'était un petit peu un monde en vase clos, et qu'on réagissait à des stimulus qui étaient plus ou moins secrétée par, par l'organisation elle-même. C'était un peu, encore une fois, le serpent qui se mord la queue. Et c'est sans doute une des raisons, là on met le doigt sur une des raisons qui ont conduit au dépérissement de ce qu'on appelle le gauchisme, ce à quoi Jean faisait référence tout à l'heure. Mais je crois qu'il s'agit quand même d'un film très important, même au-delà des gens qui ont connu cette époque-là. Je crois que c'est un film qui est à voir, dans la mesure où c'est pas du tout un film ennuyeux, c'est pas du tout, ça a été dit aussi, mais je crois qu'il faut bien insister là-dessus, il ne s'agit pas du tout d'un film militant, prêchant pour sa chapelle. Je crois que c'est beaucoup plus un film qui est fait bien qu'avec des petits moyens, qui est très très vivant et qui a un rythme en particulier. Bon, c'est vrai, il y a de l'humour et c'est un film très attachant.
Oui, je crois qu'il faut insister sur le fait que c'est un film qui a été fait avec très peu de moyens. Il y a beaucoup de photos, d'archives. Et je crois qu'on avait déjà pu voir au Cinépoche un court-métrage de Romain Goupil sur son père, qui est un ancien caméraman de la télévision, qui a été membre du syndicat, même membre de la CGT, des techniciens du film. Et je crois que là, il y a vraiment un auteur qui s'est dévoilé et on sait déjà que MK2 va produire le prochain film de Romain Goupil, qui sera là vraiment une histoire de fiction, et je crois que c'est vraiment ça, c'est un auteur à suivre.
C'est l'impression que ça donne, oui, pour un premier film. Je crois que c'est vraiment une œuvre importante et il faudra garder un œil sur ce Goupil là.
Comme vous le savez, Radio Alpa n'émettra pas demain, dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs. Et ce n'est donc lundi que nous retrouverons Pierre, Jean et Philippe qui sont à Cannes actuellement et qui entretiennent avec Radio Alpa une correspondance sonore sous forme de cassette. À lundi donc pour la suite de ce Cannes 82.